Allô, Jérémy?
Salut!
Hey, hein? Hey. Quel match! Ah non, non, et puis moi, je l'ai enregistré.
Oui.
Je pense que je vais le réécouter.
Tu vas jouer cet été?
Je vais le réécouter ce soir, tranquillement, pas vite. C'était un très bon match de hockey. Et tu sais, c'est ce que ça prend pour gagner un match. Il faut travailler en équipe, avoir le comportement des batailleurs, des battants, là, des gagnants. C'est ce qu'on a vu hier au Centre Bell.
Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match avec ce niveau d'intensité-là au Centre Bell. Hier, là, les gens sont restés jusqu'à la toute fin du match et ça, c'est très rare qu'on voit cela depuis quelques années. Normalement, là, dans les 10 dernières minutes du match, les gens quittent, même quand c'est des matchs serrés. Mais hier, les gens étaient debout sur leur siège. Je parlais avec Victor Mété après le match hier qui m'a dit les gens commençaient à scander olé, olé, olé. Il restait 10 minutes puis on jouait contre le Lightning. Je les trouvais un peu vite sur la gâchette, comme on dit. Mais Victor Mété, c'était la première fois, c'est sa deuxième saison avec le Canadien, qui vivait un moment d'aussi haute intensité. Puis il a dit je comprends maintenant ce qu'on essaye de nous expliquer pour ce qui est des séries éliminatoires, parce qu'on ne s'entendait pas sur la patinoire comparativement à normalement où les gars sont capables de communiquer et tout cela. Donc vraiment, on a élevé ça à un autre niveau, au niveau pratiquement des séries éliminatoires. Et bon, on s'en est parlé un petit peu hier, on savait qu'il allait avoir des absents chez le Lightning. Le Canadien en a profité, il a joué un excellent match, il faut le mentionner hier. À un certain moment donné, on a craint que Eddie Pasquale allait nous jouer un petit tour, parce qu'à un moment donné, il arrêtait tout ce qui passait. Là, on dirait qu'il y avait de l'aide d'un homme dans un cirque en train de faire des pirouettes, puis tout semblait le frapper. Mais Canadien a été assez résilient, puis si on se regardait les journalistes après la deuxième, puis on voyait que Columbus perdait, puis ça regardait pas très bien, puis on se disait, écoute, à 2-2, là, ils peuvent pas échapper ça, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Puis moi, j'ai aimé le fait qu'à chaque fois depuis le début de cette saison, le Canadien a été obligé de lever son jeu d'un cran, ben ils ont été capables de le faire. Et là, ben non seulement, écoute, ils ont ramassé 13 points sur une possibilité de 16 dans les 8 derniers matchs, et ils n'ont pas bougé du foutu 9e rang.
Incroyable quand même, hein? C'est quand on parle de parité, là on a-tu un bel exemple?
C'est incroyable. Je pense qu'il y a une journée pendant 24 heures la semaine dernière où ils sont passés au 8e rang, mais ils sont tout de suite redescendus au 9e rang. Elle n'est pas capable d'aller gagner ne serait-ce qu'un seul rang au classement. Mais attention, parce que avec la victoire d'hier, tu te donnes un mince espoir de même finir 7e si jamais les deux équipes de l'autre côté trébuchent Columbus et la Caroline, et toi tu finis avec force. C'est pas impossible que le Canadien finisse 7e, et ça, ce serait un gros, gros, gros boni pour le Canadien s'il devait se qualifier pour les séries, d'éviter le Lightning de Tampa Bay. Et en plus, les Pingouins continuent de perdre et ne sont pas assurés d'une place en série. Et au moment où on se parle, avec le Canadien, ils n'auraient pas le bris d'égalité. Donc, si ça finissait mal pour les Pingouins et ils ramassaient un point sur 4, c'est pas impossible que le Canadien passe devant eux. Donc, il y a des portes qui se sont ouvertes là, suite à la victoire d'hier.
Tu sais pas ce qu'on donne aujourd'hui, Richard Lachance est en studio tantôt. On donne une paire de billets pour assister au premier match des séries du Canadien au Centre Bell.
Ah oui?
J'ai les billets entre les mains, OK? on va les faire tirer parmi ceux qui nous ont parlé aujourd'hui. J'ai quasiment le goût de partir à la course avec, là. Selon toi, puis on va faire des pronostics, là, parce que le calcul mathématique permet de croire maintenant que le Canadien a ses chances de faire les séries. D'après toi, là, une chance sur combien?
Mettons, sur une échelle de 1 à 10? Sur 3, là, on donne à peu près 36 % de chance aux Canadiens de faire les séries, mais bon, ça fluctue après chaque match. Il y a quelques avantages. Premièrement, les Blue Jackets et les Hurricanes affrontent respectivement les Rangers et les Devils. Ça, c'est pas bon signe. D'ici la fin de la semaine, c'est deux équipes qui ne sont plus du portrait des séries éliminatoires et qui, normalement, ne devraient pas avoir la même conviction que ces deux équipes-là à gagner les matchs. Ceci dit, les Hurricanes jouent deux matchs en deux soirs, vendredi et samedi, chose qui n'est pas le cas pour les Canadiens et les Blue Jackets. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs façons de regarder cela. Puis c'est sûr que le Canadien n'a pas des clients faciles avec Washington et Toronto dans ces deux derniers matchs. Quoique Washington et Toronto ont déjà assuré leur place en série, donc à ce niveau-là, le Canadien devra arriver plus affamé. Mais écoute, j'aime la façon dont cette équipe-là rebondit depuis à peu près 2 semaines et demie, parce qu'on a passé une période qui a duré à peu près 1 mois et demi où on ne reconnaissait plus cette équipe-là. Là, on a, disons qu'on a redéfini les trios. On bouge pas trop cela, mis à part le quatrième hier. Et ça porte fruit, là.
Et Jérémy, moi, ce qui m'impressionne dans cette équipe-là, puis on le dit, hein, qui joue avec cœur, énergie, du désespoir. Puis t'as des gars, là, Brett Kulak comme défenseur, là, chez le Canadien, ou le nouveau, le Follin, qui joue le défenseur droitier. Lui aussi, c'est des gars qu'on croyait jamais qu'on verrait un jour avec cette équipe-là. Puis les dernières acquisitions aussi de Marc Bergevin, Nate Thompson, entre autres, qui a marqué le premier but hier. C'est des gars qui font du Jordan Will. Qui font du bon travail.
C'est du travail de plombier à son meilleur, disons la vérité, là, parce que c'est pas des gars qu'on s'attendait à voir faire une grande différence. Je ne sais pas où seront ces gars-là dans un an. Est-ce qu'ils vont être de retour avec le Canadien? On verra. Brett Kulak, il sort de nulle part, là, on va se le dire comme ça. Nate Thompson, quand on est allé le chercher, on s'est dit, ben coudonc, qu'est-ce qui peut bien amener au Canadien? Ceci dit, hier, Thompson, avec deux gars quand même qui ont de la vitesse et qui ont un certain talent en Byron et Kotkaniemi, ben écoute, quand il a marqué le premier but, Thompson, là, puis on y a parlé après le match, là, il était tellement, tellement heureux d'avoir pu contribuer à cette victoire-là puis marquer ce premier but-là pour le Canadien. Surtout qu'on avait vraiment joué de malchance sur le but que Domi a marqué dans son propre filet. Là, vraiment malchanceux là-dessus, mais ils ont rebondi à chaque fois. Puis là, ben écoute, je pense que l'espoir renaît plus que jamais dans l'esprit des joueurs dans ce vestiaire-là. Donc, je pense qu'ils partent pour Washington gonflés à bloc, là.
Hey, merci, Jérémy. On se reparle demain. Passe une très belle journée. Quelques secondes sur les tricheries de Donald Trump au golf. T'as un livre qui paraît là-dessus?
Oui, bien, il y a un livre qui vient tout juste de sortir, qui a été écrit par un journaliste de Sports Illustrated, Rick Riley, qui a parlé à plusieurs personnes qui ont joué au golf contre Donald Trump. Et ces gens-là expliquent comment Donald Trump s'y prend pour tricher sur le terrain de golf, notamment Oscar De La Hoya, Samuel Jackson, Alice Cooper, mais aussi les professionnels de golf, Dustin Johnson, Brad Faxon, Tiger Woods ont tous des histoires à raconter. Donc, des agents du service secret qui partent à la course dans le bois chercher la balle pour la tasser de quelques pieds. Puis, Monsieur le Président, votre balle est ici, là, elle est jouable. Il n'y a pas de problème. Là. Bon. Donc, c'est des histoires assez rocambolesques.
Jean Chrétien jouait au golf avec Bill Clinton à l'époque. Puis il jouait ici dans la région.
Il avait un surnom.
Il prenait beaucoup des Mulligan. Il appelait plus ça des Mulligan. Il appelait ça des Clinton à l'époque parce qu'il paraît qu'il reprenait sa balle à plusieurs reprises quand il manquait son coup de départ.
Mais sais-tu quoi? C'est correct. Au golf, on fait tout cela, mais on se prend pas au sérieux. T'sais, on déclare pas publiquement j'ai un handicap de 2 puis j'étais un excellent golfeur. Si tu as un handicap de 2 puis tu es un excellent golfeur, t'as pas besoin de ton agent de service secret de se rouler les manches pour aller chercher une balle dans le lac pour te la déplacer à côté pour faire semblant que tu as réussi ton coup. Là. On s'entend là-dessus. Là.
Merci, à demain.